Merci beaucoup pour cette introduction et pour cette invitation. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et je remercie chaleureusement donc le professeur Sansonetti pour cette invitation et ses efforts en faveur de la santé publique et de la place de la santé publique dans cette institution. Alors, l'environnement, c'est le soutien de notre vie, c'est le cadre de l'essentiel de nos activités et aussi le réceptacle de leur détritus. C'est ce qui nous nourrit et ce qui va finir par nous digérer. Sur le long terme, si on écoute Darwin, c'est l'environnement d'une certaine façon qui façonne les espèces et donc qui a fait d'Homo sapiens une grande partie de ce qu'il est aujourd'hui. Mais je voudrais cet après-midi parler des relations entre l'environnement et l'humain à une échelle de temps beaucoup plus courte, celle de la vie humaine, et discuter donc de cette influence de certains facteurs environnementaux sur notre santé. C'est une question qui fait partie de la médecine et de la branche de la médecine qui s'intéresse plus particulièrement à la prévention. Et selon un programme qui a, je crois, été très bien énoncé il y a plus de deux siècles par Condorcet, pour qui cette médecine de la prévention, qu'il appelait la médecine préservatrice, vise à faire disparaître à la longue à la fois les maladies infectieuses, mais aussi les maladies chroniques, qu'il appelait les maladies générales, qui doivent leur origine au climat, aux aliments, à la nature des travaux, donc là il fait référence aux expositions professionnelles. Et il nous fixait cet objectif, je crois, extrêmement ambitieux et clair, et qui colle très bien à l'épidémiologie, d'identifier les causes éloignées des pathologies. Et je crois qu'on peut là voir très bien la complémentarité entre, disons, une recherche physiopathologique qui s'intéresserait aux causes proches des maladies, disons d'une certaine façon à leurs mécanismes, sur lesquels schématiquement on va agir avec la thérapeutique, et une médecine de la prévention avec l'épidémiologie en son centre, qui s'intéresserait elle aux causes plus éloignées, sur lesquelles très schématiquement on va agir surtout avec des approches de prévention. Alors, pour illustrer cette problématique, j'aimerais partir d'un exemple qui est tout à fait fondateur pour nous et qui est à la frontière entre différentes disciplines, qui est l'exemple des travaux de John Snow à Londres au milieu du 19e siècle pour identifier les causes du choléra. À l'époque, on était dans une situation qui était peut-être pas très bonne pour la santé publique, mais très intéressante d'un point de vue scientifique, avec deux réseaux de distribution d'eau qui puisaient leur eau, l'un quasiment dans la ville de Londres, avec une contamination par les eaux usées, et un autre qui puisait son eau bien plus en amont, en suivant les recommandations récentes de la municipalité. Et c'est une situation particulièrement intéressante scientifiquement si on cherche à étudier les causes des choléras, et si, comme John Snow, qui était avant tout anesthésiste et qui est pour moi un des pères de l'épidémiologie environnementale, je pense que c'est aussi, je ne sais pas si Arnaud Fontanet ou Philippe Sansonetti seront d'accord, quelqu'un qui a joué un très grand rôle pour la microbiologie. Et donc, il était à l'époque en opposition totale avec, disons, l'essentiel de l'Académie royale de médecine, pour qui c'était les miasmes, des émanations qui venaient des patients atteints de choléra et qui se transmettaient essentiellement dans l'air, qui étaient à l'origine du choléra. Et il était convaincu que la cause était à rechercher dans l'eau de boisson et sa contamination. Et il a tiré profit de cette situation particulière avec ces deux réseaux d'adduction d'eau à Londres, dont il a cartographié les zones qu'il distribuait, et il s'est intéressé non pas à faire une comparaison entre la zone desservie essentiellement par un réseau et l'autre desservie principalement par l'autre réseau, les zones en vert et rose ici, parce qu'il savait que tout de suite on allait lui dire que s'il y avait des différences dans les taux de choléra entre les deux zones, ça pouvait être attribué à tout un tas d'autres facteurs que la composition de l'eau, par exemple la distribution des activités professionnelles. Et c'est sur cette troisième zone en gris qu'il a centré ses efforts, troisième zone dans laquelle les deux réseaux de distribution étaient impliqués. Et en allant dans cette zone, il a identifié que dans un pâté de maisons données, il y avait alternativement des maisons qui étaient alimentées par un réseau ou par l'autre, de façon extrêmement intriquée, ce qui, bien que globalement les deux populations desservies par chacun des deux réseaux étaient similaires, ce qui l'a décrit comme une situation correspondant à une expérience naturelle. Et quand, en allant chercher finement et en attribuant à chaque maison le réseau de distribution d'eau correspondant et en comptant le nombre de décès par choléra, Eh bien, en faisant cela, il a mis en évidence une multiplication environ par 9 du risque de décès par choléra dans les maisons qui étaient desservies par le réseau qui puisait son eau dans la ville avec une contamination possible par les eaux usées. Ce qui a permis d'identifier, sinon la cause, mais du moins un levier sur lequel agir contre le choléra efficacement, à une époque où on était une trentaine d'années avant les travaux de Corps sur Vibrio choléra. Alors, je crois que Pacini avait déjà identifié le Vibrio du choléra à cette époque-là, mais c'était des travaux qui étaient, je crois, pas du tout connus par la communauté scientifique. Donc tout ceci illustre, je crois, très bien la place et le rôle de l'approche de l'épidémiologie, avec ici un modèle dans lequel on a une caractérisation très efficace, simple mais très efficace, des expositions, des pathologies, en l'occurrence ici la mortalité par choléra, un grand soin sur le design, parce que ce n'est pas parce qu'on est dans une approche observationnelle que on ne va pas réfléchir au protocole d'étude, en fait, bien au contraire. Et avec l'approche expérimentale comme horizon de référence, il nous parlait d'expérience naturelle, une préoccupation centrale qui est de rendre comparables des groupes qui sont a priori pas forcément comparables dans ce contexte observationnel, donc une préoccupation pour ce qu'on va appeler les facteurs de confusion, et des résultats qui sont opérationnels du point de vue de la prévention, sans forcément apporter beaucoup d'éléments précis sur les mécanismes impliqués, ni même sur l'agent causal précis. Alors je voudrais, de façon probablement très très schématique, contraster ce modèle causal de l'effet des agents microbiaux tels que ceux qui sont tels que ici dans le cas du choléra, avec les défis qu'on a dans la recherche en santé environnementale, notamment sur les facteurs chimiques aujourd'hui. En gros, à l'époque de John Snow, on est face à la situation d'agents qui sont des causes nécessaires de la maladie, maladies qui sont extrêmement spécifiques avec des symptômes sans équivoque, et une période d'incubation courte de quelques jours ici. Si on s'intéresse aujourd'hui à des agents physiques ou chimiques susceptibles d'influencer la santé, dans les doses auxquelles on les rencontre dans nos pays, en général, c'est des causes pas nécessaires et a fortiori pas non plus suffisantes, bien sûr, de maladies. Maladies qui ne sont pas du tout spécifiques de l'agent, qui sont multifactorielles. Il y a quelques exceptions, mais pour moi, c'est des contre-exemples. Par exemple, la maladie de Minamata à la suite d'exposition à des doses plus ou moins élevées de mercure ou méthylmercure, par exemple. Et puis, une période de latence qui peut, dans certains cas, être brève, mais qui peut aussi être de plusieurs années, voire de plusieurs dizaines d'années. Et je voudrais illustrer les défis de cette recherche en prenant l'exemple de deux familles de polluants, les particules fines, donc quelque part de la perturbation atmosphérique, et puis un perturbateur endocrinien, le bisphénol A. Et je vais très rapidement, en fonction du temps, dire quelques mots concernant l'exposome. Alors le contexte, il a évolué du point de vue démographique et de santé publique depuis l'époque de John Snow, avec cette merveilleuse courbe de l'augmentation de l'espérance de vie en France, avec une multiplication par 3 de l'espérance de vie. On passe d'environ 25 ans vers 1750 à plus de 80 ans aujourd'hui. Et ça s'explique notamment par une diminution très forte de la mortalité infantile et notamment via le contrôle de la mortalité par les agents infectieux. Vous avez ici des données américaines sur le bouleversement de la structure des causes de décès, avec aujourd'hui une contribution très forte, elle n'est pas nulle bien sûr, mais très faible, des agents infectieux, et en contrepartie une augmentation des maladies chroniques qui surviennent à un âge avancé, ce qui ne veut pas dire que tous les déterminants sont tardifs, bien sûr, au contraire. Alors, ce qui explique ce contrôle des agents infectieux, c'est les progrès du côté de la prévention, notamment l'hygiène, notamment la vaccination, et puis aussi du côté de la thérapeutique, au moins à partir du milieu du XXe siècle, avec les antibiotiques et d'autres traitements efficaces de différentes pathologies par la suite. Donc je vais examiner différents éléments en faveur du rôle de facteurs environnementaux sur ces maladies chroniques, en commençant d'abord par des arguments, je dirais indirects, en tout cas de mon point de vue d'épidémiologiste. Premier d'entre eux, c'est le rôle majeur des facteurs sociaux comme déterminants de la santé. Alors, je ne vais pas m'étendre sur cette question, surtout que je sais que Vous accueillerez ici Didier Fassin cette année, qui parlera probablement très clairement de cette question des inégalités sociales de santé. Mais je voudrais juste rappeler que ces facteurs sociaux sont très prédictifs de la mortalité et de la santé en général. Ici, vous avez le taux de mortalité au-delà de 30 ans. Il ne faut pas regarder les comparaisons inter-pays, mais intra-pays, entre différentes catégories sociales définies en fonction de leur niveau d'éducation. Et vous voyez un gradient de mortalité dans la défaveur des catégories les moins favorisées socialement. Et ce gradient s'observe y compris dans des pays comme les pays scandinaves, où le rôle des inégalités sociales dans l'accès aux soins, qui sont réelles et qu'on ne peut pas négliger, explique probablement pas l'essentiel de l'écart de mortalité entre les gens plus favorisés socialement et ceux qui sont moins favorisés, ici marqués par le niveau d'éducation. Et je ne vais pas m'étendre, mais cette différence s'explique pas non plus par des polymorphismes génétiques. À un niveau beaucoup plus fondamental, un autre argument en faveur du rôle des facteurs environnementaux est lié à ce qu'on a compris des mécanismes proches, à toutes les connaissances de la physiopathologie, des maladies chroniques et l'implication des grands systèmes de défense et d'adaptation de l'organisme dans ces pathologies. Alors, je vais être très bref, surtout ici dans cette audience, mais on a bien sûr dans l'organisme des systèmes de défense face aux agressions, par exemple notre système immunitaire, qui va réagir par des mécanismes plus ou moins spécifiques, notamment de l'inflammation, qui va permettre dans certains cas une réparation, mais dans d'autres cas, si on a une inflammation chronique, à long terme, va pouvoir augmenter le risque de survenue de maladies chroniques comme le cancer. Et puis un autre ensemble de mécanismes, que sont les mécanismes épigénétiques. Ces modifications épigénétiques peuvent entraîner des altérations dans l'expression de certains gènes qui peuvent permettre de s'adapter à une modification de l'environnement, au moins à l'échelle de la vie, voire sur le plus long terme, voire les cours ici d'Edith Hurd. Mais ces modifications de l'expression des gènes peuvent aussi faire le lit de pathologies chroniques. Et la recherche en toxicologie, pour faire un petit peu bref sur des questions absolument passionnantes, a identifié que un certain nombre de facteurs environnementaux sont capables d'allumer et, disons, ces mécanismes de réponse et de défense de notre organisme et d'entraîner, par exemple, dans le cas des particules fines ou du plomb, des mécanismes d'inflammation chronique, de stress oxydatif, voire dans certains cas, d'entraîner des modifications épigénétiques ou bien d'interagir avec d'autres systèmes de notre organisme, et notamment le système endocrinien ou le système nerveux. Ces effets sont encore plus sévères s'ils surviennent dans le cas d'exposition développementale, car le fœtus, le nouveau-né, a des mécanismes de défense qui sont souvent pas matures, car l'organogénèse, le développement sont des mécanismes extrêmement complexes et contrôlés finement et donc fragiles. Et puis on sait aussi que pendant le développement, il y a des bouleversements épigénétiques qui surviennent. On sait aussi que le système endocrinien qui contrôle une partie de ce développement peut être perturbé. C'est tout le travail sur les perturbateurs endocriniens qui a permis d'identifier des dizaines de substances qui sont susceptibles d'interagir à différents niveaux avec le système endocrinien, notamment avec les récepteurs nucléaires, mais aussi avec le métabolisme des hormones. Ceci a amené la formulation du concept de DOAD, ou origine développementale de la santé et des maladies, qui est selon lequel la santé à l'âge adulte est en partie influencée, on peut parler de programmation, si on comprend bien ce qu'on veut dire par là, ça veut dire influencée, par des événements qui surviennent très précocement. Et c'est complètement en écho avec des travaux qui viennent de la santé publique dans les années 70-80, et notamment à partir des années 80, par David Barker, l'épidémiologiste anglais, qui avait mis en relation le poids de naissance avec le risque de pathologie métabolique, pathologie cardiovasculaire et de décès pour ces causes de nombreuses décennies par la suite. Et depuis, les collègues toxicologistes, biologistes cellulaires, biologistes moléculaires se sont emparé de ses connaissances, donnant lieu à ses travaux sur le concept d'OAD, qui est une théorie extrêmement intéressante à l'interface avec le développement, l'épigénétique, la santé environnementale et l'épidémiologie. Troisième faisceau d'arguments, j'ai envie de dire toujours en creux concernant le rôle de l'environnement sur la santé, c'est les connaissances apportées par les développements de la recherche pangénomique, les études giboises des dernières décennies, et puis des travaux venant de l'épidémiologie, notamment sur les études familiales. Pour dire un mot des études familiales, le principe est tout simplement de comparer des vrais jumeaux avec des faux jumeaux qui ne partagent qu'une partie de leur patrimoine génétique, ou des faux jumeaux avec des frères et sœurs, ou des frères et sœurs avec des cousins qui partagent des fractions différentes du génome de leurs parents et des fractions différentes aussi de leur environnement prénatal et postnatal. Et ces études permettent de fournir des éléments et des indications sur l'héritabilité, qui est un concept un peu compliqué, mais qui traduit la fraction qu'on a envie d'attribuer au code génétique, vraiment à l'ADN en dur, hein, pas l'épigénétique, mais vraiment à la génétique, dans la survenue des maladies. Et on peut aussi faire la même chose en essayant d'additionner les travaux des études pangénomiques, mais qui sont à un stade beaucoup moins avancé et qui ont une tâche beaucoup plus lente et complexe pour identifier la contribution des gènes. Les résultats sont quand même globalement cohérents. Ils vont dans le sens pour certains phénotypes et pathologies, comme le diabète de type 1 ou la taille, il y a une héritabilité probablement très importante. Mais pour de nombreuses maladies chroniques ou phénotypes, comme le taux de cholestérol, le surpoids, le diabète de type 2, le cancer du sein, du testicule, la leucémie, l'héritabilité est probablement de quelques pourcents à quelques dizaines de pourcents, ce qui, en creux, laisse une place pour des facteurs non codés dans l'ADN en dur et transmis, et donc les facteurs environnementaux au sens large. Ces études familiales elles sont extrêmement intéressantes, mais elles ne permettent pas de pointer sur les facteurs de l'environnement au sens large, hein, ça inclut les comportements notamment, qui pourraient être à l'origine de cette hétérogénéité dans le risque de maladie. Donc ce n'est pas très opérationnel du point de vue de la médecine préservatrice de Condorcet. Ça nécessite des grandes populations et des registres qui sont en gros disponibles dans quelques pays scandinaves ou américains, mais pas tellement dans les pays du Sud, en tout cas à l'échelle nécessaire pour avoir suffisamment de jumeaux et de vrais et faux jumeaux. Ça fournit des résultats qui sont très dépendants du contexte et qui dépendent de la variabilité à la fois des polymorphismes génétiques et des facteurs environnementaux. Il y avait une forte héritabilité de la taille, ça c'est dans les pays du Nord, mais si on faisait les mêmes études dans des pays du Sud où il y a beaucoup plus de déficience alimentaire, par exemple, on verrait peut-être une héritabilité plus faible de la taille. Et puis, d'une certaine façon, ça repose point de vue causal sur l'opposition dépassée entre gènes et environnement qui ignore que facteurs génétiques et facteurs environnementaux peuvent être impliqués dans des mêmes mécanismes causaux à des niveaux différents. Donc du coup, tout ceci amène à proposer le modèle général selon lequel les pathologies chroniques sont influencées par des causes proximales, proches, physiologiques que j'ai évoquées et des nombreux mécanismes impliquant les systèmes endocriniens, immunitaires, cardiovasculaires, systèmes nerveux, etc. Ces paramètres et ces systèmes sont influencés par notre comportement au sens large, dans lequel on peut inclure l'alimentation, le tabac, l'activité physique, le sommeil. Tout ceci est aussi bien sûr influencé par le génome et l'épigénome. Pour ce qui est de ce qui est extérieur maintenant à l'organisme, bon, d'une part, le comportement influence cet environnement, voire la problématique du changement climatique, mais ce n'est pas directement ce qui nous intéresse aujourd'hui, même si en fait ces modifications de l'environnement en général peuvent avoir une influence sur notre santé. Et notre environnement va influencer d'une part nos comportements. Si je vis au bord de la mer ou à proximité d'espaces verts, je ne vais, vais pas me nourrir de la même quantité de poissons ou avoir la même activité physique que quelqu'un qui vit ailleurs. Ces facteurs environnementaux, comme je l'ai évoqué, peuvent influencer le stress oxydatif, créer de l'inflammation et d'autres mécanismes déclenchant les maladies chronique, et aussi, y compris, certains mécanismes épigénétiques. Alors, on peut mettre tout à fait dans l'environnement les facteurs sociaux, ou on peut les voir, selon le modèle causal qu'on a, comme des déterminants de nos expositions environnementales. Donc, depuis le début, je parle de l'environnement au sens très large, et je voudrais en dire un tout petit peu plus. On utilise aujourd'hui, grâce à Christopher Wild, l'expression d'exposome, qui désigne simplement l'ensemble des facteurs environnementaux auxquels on est exposé sur la vie entière, depuis la conception, quelle que soit leur nature. L'idée est ici vraiment de faire pendant au génome, qui inclut l'ensemble des paramètres génétiques. Ces facteurs de l'environnement, ça inclut en premier lieu les agents biologiques, les bactéries, les virus, les parasites eucaryotes, les agents physiques, les rayonnements ionisants, non ionisants, la température, les paramètres météorologiques, le son, le bruit. Et puis les facteurs chimiques d'origine naturelle. On peut penser aux mycotoxines si on se focalisait sur les effets sanitaires, ou produits par l'humain, et il y a probablement plus de 20 000 substances commercialisées aujourd'hui en Europe, au-dessus d'un certain niveau, en excluant les médicaments et les pesticides. Alors, je vais me concentrer sur les facteurs chimiques pour la suite et sur cette période, donc depuis le début du 19e siècle, l'époque de John Snow, période que, je ne suis pas sûr que tous les géologues seraient d'accord, mais que certains appellent l'Anthropocène et qui correspond en gros à la révolution industrielle. Révolution industrielle qui est une révolution de l'énergie avant tout, qui a d'abord été une révolution du charbon et qui a entraîné, dans un premier temps, une augmentation des niveaux alors, de certains métaux que l'humain a toujours utilisés, comme le plomb, et de produits de combustion, comme les particules fines, les oxydes de soufre, bien sûr, le dioxyde de carbone. Et puis, à partir du moment où cette révolution industrielle, qui est une révolution de l'énergie, s'est appuyée sur le pétrole, il y a eu une révolution chimique qui a entraîné, disons, à partir des années 1930-50, une augmentation de la production d'abord de composés chlorés, les polluants organiques persistants tels que PCB, DDT, qu'on a interdit après quelques décennies, et puis ensuite d'autres pesticides que le DDT, comme les pesticides organophosphorés, des composés des plastiques comme les bisphénols, des additifs des plastiques comme les phtalates, et tout un tas d'autres familles de substances. Et ces agents chimiques, d'une certaine façon, c'est le pendant pour la révolution industrielle de ce que les agents infectieux sont pour la révolution agricole, si on considère que c'est la révolution agricole qui a rapproché l'humain d'un certain nombre de pathogènes en diminuant la distance avec notre distance avec les animaux domestiques. Donc je vais rentrer maintenant ici dans la discussion des effets de ces substances avec des approches qui se concentrent précisément sur des substances bien spécifiques. Et je voudrais juste, pour rester dans cette présentation très... là, vous avez vu ici ce schéma historique des agents de l'environnement. On n'a pas de classification équivalente à la classification phylogénétique pour les agents chimiques. Il y a un grand nombre de familles. Il n'y a pas de façon simple de les classifier si on s'intéresse à leurs effets sur la santé. Mais il y a quand même quelque chose d'important à remarquer, qui est que du point de vue de la demi-vie toxicocinétique dans l'organisme, la plupart des substances de la première phase de la révolution industrielle, ou disons jusqu'aux années 1950, ont une persistance relativement longue dans l'organisme, un sac à 10 ans dans le cas du DDT, avec l'exception du tabac. Et pour la période la plus récente, et l'essentiel des substances qui sont commercialisées encore aujourd'hui, on a des demi-vies beaucoup plus courtes, de l'ordre de quelques heures, vous voyez, à quelques semaines, selon les substances. Ce qui ne nous dit pas forcément grand-chose du point de vue de la nocivité, parce que bien sûr, la demi-vie toxicocinétique ne permet pas de prédire la nocivité d'une substance, mais ce qui va poser un défi colossal du point de vue de la caractérisation des niveaux d'exposition et de leurs effets sur la santé. Donc, je vais prendre deux exemples de ces substances, ou en fait, mélanges de substances qui sont préoccupants aujourd'hui et qui sont extrêmement variables dans le temps, en commençant par les particules fines. L'alerte sur les effets des particules fines sur la santé vient notamment de l'épisode de smog de Londres de 1952, qui était extrêmement important, à tel point que en plein jour, on n'y voyait plus rien. Vous voyez que les véhicules avaient allumé leurs phares. On avait du mal à faire circuler les ambulances. Et très rapidement, après ce pic de pollution, et à l'époque, il y avait déjà un suivi de la pollution, on a observé une augmentation de la mortalité, qui correspond à plusieurs milliers d'excès d'essais en excès sur la période du mois de décembre 1952, et une multiplication par deux du taux de mortalité pendant l'épisode de smog qui a duré quelques jours. Et là, on est dans une situation qui, du point de vue scientifique, est relativement simple, parce qu'on a un facteur de risque qui est visible. En fait, on ne voit rien dehors, mais c'est parce qu'il y a un facteur de risque environnemental qu'on voit. Il n'y a pas de décalage entre l'exposition et les premiers effets de la substance. Les effets sont graves et suivis précisément. En l'occurrence, ici, c'est la mortalité. Et il y a un impact à l'échelle individuelle qui est important, une multiplication par deux du risque de mortalité, à une période où on n'avait pas d'explication alternative pour cet excès de mortalité, puisqu'il n'y avait pas encore le début de la vague de froid et l'épisode grippal hivernal n'avait pas non plus débuté. Donc je dirais qu'on est dans une situation simple pour le scientifique. À la limite, il n'y a pas besoin de science, à une condition qui est de regarder à la bonne échelle. Parce que si vous êtes uniquement à l'échelle individuelle, on ne voit rien. Le médecin qui voit un cas d'infarctus du myocarde ici, il n'a aucun moyen pour l'attribuer ou pas au pic de pollution. S'il y a, vous voyez, il y a une multiplication par deux du risque de mortalité, donc il y a sur deux cas, en moyenne, entre guillemets, c'est faux rigoureusement, mais en moyenne, un qui est dû à la pic de pollution, l'autre qui n'y est pas dû, eh bien, le médecin qui raisonne sur chacun des cas n'a pas les moyens de distinguer l'infarctus du myocarde qui est dû au pic de pollution de celui qui n'est pas dû. Dans les deux cas, il va trouver des particules fines dans les poumons, et il n'a pas de signature moléculaire manifeste, simple, pour l'infarctus qui serait déclenché, entre guillemets, par la pollution. Donc, le médecin, l'étude de cas ici est aveugle, et c'est le fait d'être à l'échelle populationnelle qui permet de produire cette courbe extrêmement simple et de faire la lumière sur la cause. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard qu'on soit à nouveau à Londres, parce qu'à Londres, depuis 1603, il y a un suivi hebdomadaire de la mortalité. Et on peut contraster cette situation en 1950 avec la situation en France en 2003. Rappelez-vous, la canicule et la difficulté des autorités à répondre aux urgentistes, aux pompes funèbres qui disaient qu'il y avait des décès en excès en début de canicule. On n'avait pas de système de surveillance en temps réel à l'époque de la mortalité. Heureusement, ça a changé depuis. Donc un mécanisme causal simple et à la limite tout à fait similaire à la situation des études de John Snow. Alors moi, quand je suis arrivé à l'épidémiologie environnementale, la question des effets de la pollution atmosphérique sur la mortalité, sur les pathologies cardiovasculaires était déjà bien comprise, et je me suis intéressé à une situation différente avec un modèle un peu plus simple que ce modèle causal qui s'apparente à celui qu'on a pour certains agents infectieux. Et la question qui m'a intéressé en allant travailler chez mes collègues du Helmholtz Center à Munich est celle des effets de la pollution atmosphérique sur la croissance du fœtus. Là, les niveaux de pollution avaient fortement baissé, on n'était plus face à un facteur de risque facilement visible sans outils scientifiques. La croissance du fœtus n'est pas une pathologie considérée par les cliniciens particulièrement grave, même si les travaux de Barker montre son importance et son lien avec statistique, au moins avec la santé à l'âge adulte. Et on ne s'attendait pas forcément à un impact fort au niveau individuel. De plus, il y a énormément de facteurs qui peuvent influencer au niveau individuel cette croissance du fœtus et de mécanismes pas si simples qui la contrôlent. Donc, j'ai convié quelques spécialistes de la question à l'époque, à Munich, et dans le cadre d'un séminaire, on a essayé d'identifier quelques voies pathophysiologiques à un niveau extrêmement simple, accessible, je dirais, en partie aux chercheurs en santé publique, qui pourraient expliquer un effet des particules fines sur la restriction de croissance intra-utérine. Et on s'est dit que pour progresser sur ces questions, et ça a été en quelque sorte mon programme de travail des 12 dernières années, il fallait améliorer la caractérisation de l'exposition particules fines dans les travaux épidémiologiques, contrôler avec soin les facteurs de risque de croissance intra-utérine altérée, ou bien, ce qui revient au même, si c'est possible, fournir des preuves expérimentales, fournir des éléments sur les voies pathophysiologiques qui pourraient être impliquées, et si possible aussi, quantifier l'impact populationnel. Alors, premier point concernant la caractérisation de l'exposition aux particules fines est important parce que les premiers travaux sur la question s'appuyaient sur les réseaux de surveillance de la qualité de l'air qui sont très limités du fait du petit nombre de stations de surveillance de la qualité de l'air dans chaque ville. Il y en a 2 ou 3. Donc on se retrouve à comparer différents quartiers des villes. C'est un peu l'approche que John Snow avait déjà identifiée comme étant pas totalement convaincante. Donc là, on s'est appuyé sur les progrès de nos collègues physiciens, chimistes de l'atmosphère, dans le développement de modèles de dispersion atmosphérique toujours plus fins, qui prennent en compte l'ensemble des sources d'émissions de polluants, le trafic, le chauffage, les industries, les paramètres atmosphériques à un instant donné, les réactions chimiques qui surviennent entre les différents polluants, pour nous fournir une cartographie beaucoup plus fine des niveaux de pollution. Et on a implémenté cette approche dans notre cohorte française et dans une douzaine d'autres cohortes dans le cadre d'un projet européen, ce qui nous a permis de travailler sur plus de 50 000 naissances, ce qui est un effectif suffisant pour étudier un événement aussi rare que le petit poids de naissance à terme, donc un poids inférieur à 2,5 kg avec une naissance après 37 semaines de gestation révolue, avec ici une augmentation d'environ 15% du risque de petit poids de naissance à terme pour une augmentation donnée de 5 microgrammes par mètre cube, qui n'est pas négligeable, hein, des niveaux de particules fines pendant la grossesse. Et cette association était plus nette avec les particules de diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 microns, qui sont les plus fines qu'on peut facilement mesurer, qui vont jusqu'au plus profond des poumons, dans les alvéoles pulmonaires, et dont une fraction va pouvoir passer dans la circulation et peut-être atteindre le système endocrinien de la femme enceinte ou l'unité fœtoplacentaire. L'étude mettait aussi en évidence une diminution du périmètre crânien à la naissance. Alors, pour élaborer qui soit ce modèle de pollution et d'exposition à la pollution, il ignore le fait que les gens passent en gros 3/4 de leur temps dans l'air intérieur, où les niveaux de pollution ne sont pas toujours les mêmes. Et c'est pour cette raison que, dans notre cohorte, j'ai mis en place une étude dans laquelle on a caractérisé les expositions avec des dosimètres personnels portés par les femmes enceintes. Donc là, cette fois-ci, le dosimètre suit la femme et nous fournit des éléments, qu'on soit dans l'air intérieur ou dans l'air extérieur. Et ce qu'on a caractérisé ici, c'est le benzène, ce qui, chez des personnes qui ne fument pas, est sensible notamment aux polluants atmosphériques liés au trafic routier. Et en plus de mesurer le périmètre crânien, on pouvait suivre sa croissance tout au long de la grossesse grâce aux mesures échographiques. Et le paramètre qui est suivi tout au long de la grossesse, c'est le diamètre bipariétal qui est très corrélé au périmètre crânien. Et on observe que les femmes les plus exposées au benzène ont des enfants dont la croissance du périmètre crânien est diminuée. Et ça s'observait dès le milieu de la grossesse, à une époque où on n'était pas conscient tant que ça qu'il y avait de l'hétérogénéité dans la croissance du fœtus en début de grossesse. Donc ça nous permet d'avoir différentes approches, comme vous le voyez, avec des modèles plus ou moins sophistiqués pour caractériser les expositions, un contrôle fin des facteurs de confusion qui mettent en évidence un écart dans la croissance du fœtus à différents niveaux d'exposition aux polluants atmosphériques. On peut continuer à avancer dans la cohorte cépage que j'ai vu mettre en place à Grenoble. En plus de ces dosimètres individuels qui caractérisent le benzène, on mesure l'exposition personnelle aux particules fines de façon répétée et on combine ça avec des données sur les déplacements par GPS et des accéléromètres qui fournissent un indicateur indirect aussi du débit respiratoire des femmes enceintes de notre cohorte. Pour ce qui est maintenant de l'autre partie de nos travaux concernant les voies pathophysiologiques qui peuvent être impliquées, on a commencé on a réalisé des travaux qui s'intéressaient à une hypothèse selon laquelle l'action des polluants atmosphériques pourrait passer par une altération de la fonction cardiovasculaire maternelle et mis en évidence une altération de la pression artérielle des femmes enceintes en lien avec les polluants atmosphériques. Cette altération de la pression artérielle pourrait entraîner, même si on ne l'a pas documenté précisément, une altération des échanges materno-placentaires, une diminution de l'apport en nutriments, en oxygène du fœtus, qui pourrait expliquer la restriction de croissance. On observe aussi, dans un des centres de notre cohorte, une diminution du poids du placenta et du ratio entre le poids placentaire et du fœtus. Et on a commencé, c'est le travail de Johanna Leupel dans mon équipe, à s'intéresser aux altérations épigénétiques dans le placenta. Pour l'instant, les gènes dont le niveau de méthylation dans le placenta sont associés avec les polluants atmosphériques ne sont pas connus comme étant impliqués dans la croissance du fœtus, mais on ne sait pas tout là-dessus. Il y a notamment un gène qui est ADORA2B, dont les niveaux varient avec les niveaux de polluants atmosphériques, qui est impliqué dans la prééclampsie, et on sait qu'il y a une association entre exposition aux particules fines et risque de prééclampsie. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas mis en évidence d'association sur des gènes connus pour être impliqués dans la restriction de croissance chez l'humain. Donc vous voyez les travaux qu'on peut faire sur, avec la finesse qui n'est pas celle de la toxicologie, qui est accessible dans les cohortes épidémiologiques. Et tout ceci, je crois, illustre la façon dont on progresse pour faire de l'inférence causale en santé environnementale. On s'intéresse à des effets stochastiques avec des enjeux liés à l'échantillonnage, donc il est clair que ce n'est pas une étude qui va permettre de conclure à la causalité. On est dans un contexte observationnel et on va avoir une approche qui n'est pas expérimentale, mais plutôt statistique ou liée au design pour contrôler les biais. Et il est crucial, et c'est tout à fait en lien avec ce que disait Bradford Hill dès les années 60, d'avoir des preuves qui viennent de différents contextes et différentes approches pour se rapprocher de l'inférence causale. Ça correspond à la thèse de Rousseau-Williamson, selon laquelle il faut à la fois une preuve probabiliste, c'est-à-dire en gros un écart dans le niveau du phénotype considéré chez les sujets plus ou moins exposés, et un élément de preuve mécanistique. Et c'est complètement la logique qui est à l'œuvre au cirque, notamment pour classifier les carcinogènes. Et c'est aussi d'ailleurs tout à fait cohérent avec l'approche de poids de preuve qui est de plus en plus utilisée et qui consiste non pas à considérer séparément chaque discipline, mais à intégrer les éléments de preuve qui viennent de chaque discipline à chaque échelle. Alors, bien sûr, tout ceci n'exclut pas et au contraire doit intégrer la preuve expérimentale. Et il y a très peu de travaux sur ces questions des expositions aux polluants atmosphériques pendant la grossesse, et c'est pour ça que j'ai proposé, dans le cadre d'un projet soumis à l'ERC, de réaliser une telle étude expérimentale que j'ai mise en place avec mes collègues de l'INRA de Jouy-en-Josas, des spécialistes de la biologie de la reproduction, et des spécialistes du contrôle des expositions aux polluants atmosphériques hollandais, avec lesquels on a utilisé un moteur diesel, concentré ces fumées pour exposer des lapines gestantes quelques heures par jour à des niveaux relativement élevés de particules fines dans des chambres d'exposition, avec bien sûr un groupe témoin qui était exposé entre guillemets au bon air pur de Jouy-en-Josas pendant l'ensemble de la gestation. Donc un modèle qui est sur lesquels nos collègues réussissent à suivre précisément la croissance du fœtus avec exactement les mêmes échographies qu'on peut utiliser chez l'humain, et un placenta qui est un petit peu plus proche du placenta humain que le placenta des rongeurs. Et les premiers résultats de ces travaux sont en faveur, démontrent, et je crois que c'est une des choses les plus importantes, un passage transplacentaire de ces particules ultra fines jusqu'à la face fœtale du placenta. Il suggère aussi une diminution de la croissance, enfin de la taille de la tête des lapros de la génération F1, donc les premières générations la descendance des lapines exposées, tout à fait cohérent avec les associations qu'on observait chez l'humain. Et puis, il suggère sur la deuxième génération, F2, une altération de certains paramètres métaboliques qu'on aurait bien du mal à répliquer à court terme dans nos études épidémiologiques. Donc, on a des éléments expérimentaux chez l'animal. Bien sûr, ce serait passionnant et important d'en avoir chez l'humain. Maintenant, on ne peut pas faire des essais randomisés sur des expositions qui sont nocives. En fait, on ne peut pas le faire si on randomise une augmentation de l'exposition, mais on peut le faire si on réussit à randomiser la diminution de l'exposition. Et c'est ce qui a été fait par des collègues en tirant profit du fait qu'une des situations d'exposition principale aux particules fines, c'est dans les pays du Sud, l'utilisation de ces foyers ouverts auprès desquels les femmes passent de nombreuses heures à cuisiner avec leurs enfants, ce qui est une des sources majeures de leur exposition aux particules fines, alors qu'il existe des foyers qui sont beaucoup plus efficaces du point de vue énergétique, qui entraînent une déforestation nettement moindre et une exposition aux particules fines beaucoup plus faible. Et donc, mes collègues, menés par Kurt Smith, ont mis en œuvre un essai randomisé au Guatemala dans lequel ils randomisaient la distribution à ces familles et à ces femmes enceintes de foyers fermés beaucoup plus efficaces thermiquement et énergétiquement, ce qui a permis, dans le bras qui a reçu cette expérimentation, une diminution des niveaux de pollution et une tendance statistiquement pas très nette, mais qui va dans le sens d'une augmentation du poids de naissance chez les femmes à qui on a donné ces foyers fermés qui permettaient de diminuer les niveaux de particules fines. Avec tous ces travaux, on arrive donc à identifier les dangers et à fournir des relations dose-réponse entre une exposition à un facteur bien précis et certaines pathologies. On peut, et je crois que dans certains cas c'est utile, de ne pas s'arrêter là et faire ce qu'on appelle une caractérisation du risque qui correspond à la quantification du nombre de cas attribuables collectivement à une exposition donnée dans une population bien spécifique. Ces études d'impact sanitaire ou de risque, hein, de quantification du risque, très rapidement, leur principe consiste à combiner des données fines ici sur les niveaux de particules fines avec des données sur la densité de population. Donc ici, dans cette étude à Grenoble, ça nous permet d'avoir une estimation de l'exposition aux particules fines à l'échelle de la population de l'agglomération et de façon représentative cette fois, population sur laquelle on va appliquer les relations dose-réponse, soit des études que je viens d'indiquer concernant le poids de naissance, soit de grandes méta-analyses sur la mortalité ou le cancer du poumon, ce qui permet d'estimer la fraction de risque attribuable aux particules fines pour ces différentes pathologies ou problèmes, donc avec une estimation qu'environ 4 à 8% de la mortalité dans l'agglomération grenobloise est attribuable à l'exposition aux particules fines, 3 à 11% des cas de cancer du poumon, et puis entre 10 et 40%, on a ici une relation dose-réponse qui est estimée moins précisément, des cas de petits pois de naissance à terme. Donc ça, c'est l'approche qui est utilisée par exemple par Santé publique France quand elle nous donne le nombre de cas attribuables aux particules fines pour la mortalité à l'échelle nationale. On peut comparer ça avec l'impact du tabac, et dans le cas des petits pois de naissance à terme, vous voyez que le tabac a une fraction de risque attribuable qui est du même ordre de grandeur, de 10 à 20%, ce qui illustre bien ce qu'on appelle parfois le paradoxe de la prévention, à savoir qu'on peut arriver à au même bénéfice sanitaire dans une population, soit avec un facteur qui a un impact très fort au niveau individuel et une prévalence d'exposition qui n'est pas forcément très élevée, 17% chez la femme enceinte pour le tabac, ou un facteur de risque qui a un effet individuel plus faible, mais une prévalence d'exposition beaucoup plus importante, une exposition quasiment systématique, dans le cas des particules fines en milieu urbain. On peut aussi servir de ces modèles environnementaux à l'échelle nationale pour fournir des indications sur certaines populations à risque, ici en fonction des caractéristiques sociales, et vous voyez cette illustration d'une augmentation l'exposition aux particules fines des femmes enceintes qui vivent dans les quartiers les moins favorisés, avec un écart de 1 à 2 microgrammes par mètre cube, ce qui, 1 ou 2 microgrammes par mètre cube dans l'exposition aux particules fines, c'est associé sur la vie entière à une diminution de l'espérance de vie qui peut aller de 1 à 2 mois approximativement. Donc ça n'explique pas du tout l'ensemble de l'écart dans l'espérance de vie en fonction des catégories sociales, mais ça peut en expliquer une petite partie. Alors en théorie, quand on a fait ça, on a fait un peu toute la chaîne qui va de l'identification des dangers à la caractérisation des risques. Et après, la question est dans les mains des décideurs et des gestionnaires de risques. On a quantifié le risque, il s'agit de le gérer. En fait, pour certains problèmes compliqués qui impliquent de nombreux secteurs de la société, il n'y a pas toujours une gestion très rapide du risque. Et je crois que les spécialistes de santé publique peuvent aller un pas au-delà et étudier de la manière la plus précise possible les différentes options de gestion qui s'offrent à la société. Par exemple, pour diminuer l'exposition aux particules fines. C'est ce qu'on fait dans le cadre de nos travaux à Grenoble, en quantifiant l'impact sanitaire attendu de différents scénarios de réduction de la qualité de l'air. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on montre que, par exemple, se concentrer uniquement sur les points chauds, les zones les plus polluées, ça n'aura pas d'impact sanitaire important, même si ça diminuera les inégalités sociales d'exposition. On peut quantifier le bénéfice économique, et c'est ce qu'on fait avec nos collègues du CNRS, des économistes, associés à chacun des scénarios, et, in fine, se rapprocher d'études coût-bénéfice qui permettent de comparer différents scénarios d'action, charge ensuite à la société de trancher entre ces différents scénarios. Donc là, vous voyez que ça illustre le fait que l'épidémiologiste cherche à faire mentir Joseph de Maistre, qui disait que la santé n'est pas contagieuse, c'est la maladie qui l'est trop souvent. En plus de faire en sorte qu'on souffre moins des maladies contagieuses, la recherche sur la médecine préventive peut permettre de rendre, entre guillemets, la santé contagieuse en identifiant, comme ici, à quoi peut ressembler une ville dans laquelle l'environnement peut créer une épidémie de bonne santé, si je peux m'exprimer ainsi, en favorisant peut-être l'activité physique dans un air sain. Et cet enjeu se pose de façon aiguë, bien évidemment, dans le cadre de la réflexion sur l'adaptation et la lutte contre le changement climatique, qui va nécessiter de comparer des grands nombres de scénarios qui sont susceptibles de bouleverser la façon dont on se déplace, produit de l'énergie, se nourrit. Et il faudrait faire en sorte que, bien sûr, la santé ne soit surtout pas oubliée dans la comparaison de ces différents scénarios. Avec ces approches, on fait donc le passage du tableau simple des causes de décès à un tableau des causes distantes des pathologies. Vous avez ici l'estimation de l'étude du fardeau global de maladies fait à Seattle sur les principaux facteurs de risque, parmi ceux dont le niveau de preuve est le plus important, sur les années de vie en bonne santé perdues chez les Français. Si vous regardez dans le détail, et je n'ai pas le temps de m'apesantir ici, vous verrez qu'il y a très peu de facteurs chimiques, et que c'est surtout les anciens facteurs de risque du début de la révolution industrielle, les facteurs comportementaux dont l'effet est bien quantifié. Est-ce que c'est parce que ces facteurs chimiques n'ont pas d'impact ? Avant de conclure ça, et ce n'est pas du tout une hypothèse plausible étant donné ce que nous indique la toxicologie, il faut regarder dans le détail comment on progresse sur ces connaissances. Et je voudrais maintenant dire un mot plus rapidement de la recherche sur un de ces facteurs chimiques, le bisphénol A. Alors là, le début de la recherche, ce n'est pas une crise sanitaire comme avec les particules fines, mais des notions sur les mécanismes d'action du bisphénol A et des connaissances qui viennent plutôt de la toxicologie et des mécanismes d'action de ce bisphénol A. Le bisphénol A, c'est une des molécules qui est les plus produites au niveau international et qui est présent principalement sous une forme polymérisée qui est le polycarbonate. On s'est rendu compte, et c'est des biologistes cellulaires qui faisaient des expériences sur des bactéries dans lesquelles ils ont vu des effets œstrogéniques inattendus, que en fait, malheureusement, cette réaction, malgré la liaison covalente dans le polymère, est en partie réversible, surtout si on utilise, si on a de ici c'était de l'autoclavage, et donc en présence de chaleur notamment, il peut y avoir du relargage de bisphénol A, ce qui est un problème pour la population générale, parce que ce polycarbonate, dans de nombreux pays, est encore utilisé comme contenant alimentaire. Et nous, dans nos études sur les femmes enceintes, on le retrouve encore à des niveaux détectables chez 90% des femmes de nos cohortes. Là, les travaux à l'échelle in vivo, in vitro, sur notamment des tests cellulaires, indiquent qu'en plus d'être un agent œstrogénique relativement faible, il avait été considéré dans les années 30 quand on cherchait des médicaments, des œstrogènes de synthèse, à l'époque où on lui avait malheureusement préféré le distilbène avec les conséquences sanitaires désastreuses qu'on connaît. Il est aussi susceptible d'interagir avec le récepteur au glucocorticoïde, ce qui peut entraîner un certain nombre d'effets phénotypiques, notamment sur la dipogénèse, la prise de poids. C'est aussi un antagoniste de l'axe thyroïdien et il interagit aussi probablement avec d'autres hormones au rôle un petit peu moins bien connu, mais qui sont notamment impliquées dans le comportement. Et du fait du rôle des hormones thyroïdiennes dans le développement du cerveau, dans la période fœtale, dans la vie fœtale et toute la phase de développement, et de ses effets aussi sur vasopressine et oxytocine, il y a des préoccupations concernant un effet du bisphénol A sur le comportement, le neurodéveloppement. Il y a un certain nombre de travaux chez l'animal sur des modèles rongeurs qui sont tout à fait convaincants, je crois, aujourd'hui. Et ce serait très important d'avoir une tentative de mettre en cohérence ces résultats chez l'animal avec ce qui se passe chez l'humain. Et je crois qu'elle peut être tentée aujourd'hui parce qu'entre-temps, chez l'humain a eu lieu ce que certains appellent la révolution des biomarqueurs, c'est-à-dire en gros l'ensemble des progrès de recherches biochimiques avec des technologies de chromatographie en phase gazeuse, spectro-haute masse, qui nous permettent de détecter de façon ciblée, avec une très bonne sensibilité, les contaminants dans l'environnement ou dans notre organisme. Donc on sait maintenant doser ces contaminants. Le bisphénol A est un des plus difficiles à doser parce qu'en fait, il y a une contamination absolument ubiquitaire, donc il n'y a que quelques équipes qui savent bien le doser précisément. Et on a cherché à confirmer ces effets, notamment sur l'anxiété, mis en évidence dans les études chez les rongeurs, avec Claire Philippa, la chercheuse qui travaille avec moi sur ces questions depuis quelques années. Dans la cohorte EDEN que j'ai déjà évoquée, dans le cadre de laquelle on a fait doser le bisphénol A par nos collègues du CDC à Atlanta à 26 semaines de gestation à partir d'un prélèvement fait chez la femme enceinte et mis en relation ces niveaux de bisphénol A avec le comportement de l'enfant déclaré à partir d'un questionnaire standardisé de neurodéveloppement qui s'appelle le questionnaire des points forts et des points faibles qui caractérise notamment le comportement de l'enfant. Donc là, on n'est pas sur des effectifs, c'est quelques centaines d'enfants, de petits garçons, on n'est pas sur des effectifs qui permettent d'étudier des pathologies comme l'autisme, mais des marqueurs quantitatifs qui sont à long terme associés à la survenue d'autisme et qui ne sont pas forcément du tout des pathologies. On observe dans cette étude une augmentation du risque de problèmes de relation avec les pères déclarés par les mères qui remplissent les questionnaires et aussi une tendance à l'augmentation des comportements de type repli sur soi à mesure que l'exposition au bisphénol A pendant la grossesse augmentait. Alors, avec Claire, on a cherché à avancer sur ces questions et plutôt, comme nos collègues, de chercher à augmenter les effectifs de nos études ou à s'intéresser à d'autres événements de santé. On a souhaité prendre un peu de recul et réfléchir sur la caractérisation des expositions. Et plutôt que d'augmenter le nombre de mesures, d'augmenter le nombre, non pas le nombre de sujets, on a cherché à augmenter le nombre de mesures qu'on faisait chez chaque sujet des expositions. Et on a fait doser le bisphénol A sur l'ensemble des urines d'une femme enceinte, de quelques femmes enceintes pendant la grossesse. Et pendant une semaine ici, et vous voyez ces variations au jour le jour qui représentent la demi-vie extrêmement courte que j'évoquais tout à l'heure. On a des variations très fortes d'un jour à l'autre, ou même au sein d'une même journée, dans le bisphénol A excrété. Ce qui fait que vraiment ces substances sont des cibles mouvantes dans l'organisme. Et ce n'est pas parce qu'on a des biomarqueurs qui sont très précis à un moment donné qu'on a une mesure pertinente de l'exposition. Et l'essentiel des études sur la question se sont appuyées sur un unique échantillon urinaire qui, en gros, va nous dire ce qui s'est passé dans les deux ou trois heures précédant le prélèvement, mais en aucun cas nous renseigner sur une exposition à long terme. On a réalisé une simulation statistique dans laquelle on va simuler cette variabilité intra-individuelle et supposer qu'on connaît l'effet de la substance. Et donc, en supposant connaître la structure de l'erreur de mesure, ici une erreur de type additif, c'est-à-dire une variation aléatoire autour d'un niveau moyen, on peut quantifier que des études qui s'appuient sur un unique prélèvement urinaire vont avoir un biais qui est en moyenne un biais d'atténuation de l'ordre de 80% pour une substance aussi variable que le bisphénol A. C'est-à-dire que s'il y a une relation dose-réponse qui correspond à une augmentation de 10 du phénotype considéré pour une augmentation de 1 de l'exposition, l'épidémiologiste en moyenne va voir 2, et donc avec une puissance statistique très fortement diminuée. Donc on voit vraiment littéralement la partie émergée de l'iceberg, et bien souvent, en fait, on ne peut pas conclure. Est-ce que c'est une condamnation de l'approche observationnelle et une démonstration que la révolution des biomarqueurs n'a pas eu lieu? Je ne crois pas, et la solution qu'on propose, elle m'est venue par la comparaison avec les travaux de la partie de mon équipe qui s'intéresse aux effets des polluants atmosphériques. Les polluants atmosphériques sont aussi très variables au cours du temps et on a réussi à bien mettre en évidence leurs effets. Pourquoi? Parce qu'on a des systèmes de quantification qui mesurent très précisément les variations temporelles. Une station de surveillance, elle se déclenche toutes les demi-heures, toutes les heures. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir cette caractérisation fine ou quelque chose d'équivalent pour les biomarqueurs. Ben, l'idée, c'est tout simplement, au lieu de recueillir un prélèvement urinaire, d'en recueillir non pas deux ou trois, mais plusieurs dizaines pendant la fenêtre qu'on considère toxicologiquement pertinente. Dans la mesure où on est sur un fluide, au lieu de faire un dosage dans chacun des prélèvements, on peut les mélanger et faire le dosage dans le mélange intra-sujet, ce qui fait qu'on peut, pour un coût de dosage identique, augmenter fortement la fenêtre de temps sur laquelle on caractérise l'exposition. C'est une idée qui est très simple, qui est ancienne, et qui a d'ailleurs été critiquée il y a 150 ans par Claude Bernard, qui disait que si on recueille l'urine d'un homme pendant 24 heures et qu'on mélange toutes ses urines pour avoir une urine moyenne, on a précisément une urine qui n'existe pas, parce que, bien sûr, on n'a pas la même urine après la digestion ou à jeun. Mais, bien sûr, ce que dit Claude Bernard est tout à fait pertinent, mais Claude Bernard s'intéressait à des variations intra-individuelles pour mettre en évidence des effets physiologiques, pour lesquels c'est crucial d'avoir des variations intra-individuelles fines. En revanche, quand on s'intéresse à des effets à long terme, ça a tout à fait du sens de réussir à avoir une quantification d'un niveau moyen au niveau individuel pour mettre en évidence un lien entre des variations inter-individuelles, cette fois, et le risque de maladie. Et donc, grâce à cette approche, qui est une perte d'information si on s'intéresse à des questions à court terme, mais qui est un gain d'information si on s'intéresse à des effets à long terme, on a une vision beaucoup plus complète des expositions. Et on peut montrer que, dans certains cas, c'est beaucoup plus intéressant d'augmenter non pas le nombre de sujets dans les études, mais d'augmenter le nombre de mesures par sujet. Et on peut même gagner en efficacité et avoir des biais plus faibles si on diminue le nombre de sujets dans une étude, mais qu'on augmente le nombre de mesures qu'on fait chez chaque sujet, pour les expositions les plus variables en tout cas. Alors vous pensez que mes collègues qui font des cohortes à l'échelle de la planète ne sont pas complètement ravis par ces résultats, parce que c'est lourd logistiquement. Ils nous disent d'ailleurs que ce n'est pas possible de faire des recueils répétés de dizaines d'échantillons biologiques. En fait, on est ici face à un prélèvement qui n'est pas invasif. Ce qu'on va doser dans le sang est persistant, donc on n'a pas besoin de faire des prélèvements sanguins répétés. L'urine, on la prélève rapidement, et en fait, on vient de démontrer que c'est tout à fait possible dans le cadre de notre cohorte CEPAGE, où on a pu réaliser ce protocole sur pas loin de 500 familles, avec au total plus de 60 000 échantillons biologiques qui sont dans notre biothèque, et dont une quarantaine d'échantillons recueillis chez chaque femme pendant la grossesse. Donc ce grand nombre d'échantillons biologiques fait que j'aime bien utiliser le Mont Aiguille, qui est un des très beaux sommets au sud de Grenoble, pour représenter la cohorte. Mais je voudrais aussi montrer l'ingénieur de recherche de l'INSERM qui coordonne cette étude, et l'ensemble des attachés de recherche clinique qui sont sur le terrain et qui vont chercher les échantillons biologiques et font les examens cliniques des femmes enceintes et des enfants, et sans laquelle cette plateforme qui est le télescope à partir duquel les épidémiologistes observent les populations, pourrait pas exister. Donc on est vraiment ici face à, je crois, une nouvelle génération de cohortes de naissance. La première génération des cohortes de naissance dans les années 1990, c'était des cohortes avec un recrutement postnatal, pas de prélèvement biologique. La deuxième génération, elles sont allées avec un recrutement pendant la grossesse, donc on a commencé à s'intéresser à une fenêtre de temps très, très intéressante, avec un petit nombre de prélèvements biologiques. Et dans ce que j'appelle ces cohortes de troisième génération, on a des participants en quelque sorte connectés avec un suivi beaucoup plus fin de leurs expositions, avec des dosimètres, des prélèvements biologiques répétés, un phénotypage aussi beaucoup plus précis, ce qui nous permet d'avoir une vision beaucoup plus complète des expositions et des liens éventuels avec des voies de signalisation ou des phénotypes ou des paramètres cliniques. Un mot juste, parce qu'avec ces études, on peut aller au-delà et faire des travaux sur l'exposome, dont je vous avais promis de dire quelques éléments. Avec tout ce que je viens de vous montrer, on va vers une vision complète des variations temporelles sur certaines périodes des expositions. L'idée de l'exposome, c'est de prendre en plus en considération les autres expositions, qui ne sont pas forcément un biais, hein. Elles le sont que si elles sont corrélées aux facteurs qui nous intéressent et qu'elles influencent aussi le paramètre phénotypique concerné. Ces études sur l'exposome, le concept, il y a une quinzaine d'années, mais on commence juste à avoir du recul grâce à une première série d'études qui ont été financées par l'Europe dans le cadre du 7e programme cadre, et notamment ELIX, sur lesquels j'ai travaillé avec mes collègues d'IS Global Barcelone. Helix vient de se terminer, et ça nous a permis d'avancer, et on est très modeste sur les résultats, d'abord dans la caractérisation de l'exposome, et de documenter un grand nombre d'expositions environnementales à l'échelle européenne, de documenter éventuellement les associations avec des facteurs sociaux, et on commence aussi à progresser sur la façon dont on peut mettre en relation ce grand nombre d'expositions avec la santé, en se heurtant en gros aux difficultés que nos collègues qui ont fait des études pangénomiques ont eues depuis quelques décennies, avec des solutions qui sont en partie les mêmes, mais seulement en partie parce qu'on a un niveau de corrélation entre les expositions environnementales qui est plus important que la corrélation qu'il y a entre les polymorphismes génétiques. Donc ça pose des défis supplémentaires, je dirais, en plus des difficultés liées à la caractérisation des expositions, parce qu'on n'a pas les outils de quantification du génome. Ici, c'est l'exemple d'un des premiers travaux qui relie l'exposome prénatal et postnatal dans l'enfance avec la fonction, avec la pression artérielle de l'enfant, avec des associations, avec certains paramètres urbains et des expositions à des produits persistants. On n'est pas forcément étonné du fait de ce que je vous ai dit avec nos difficultés sur les polluants peu persistants, de ne pas voir forcément ressortir les polluants les moins persistants. On n'a pas encore suffisamment de recul, je crois, pour voir la place que vont prendre ces études sur l'exposome au sein de la recherche en santé publique. Je pense que un niveau où elles pourront agir, en quelque sorte, c'est de nous aider à avoir des approches à haut débit, comme on en a en toxicologie, à un peu plus haut débit, disons, que les études épidémiologiques de cohorte classiques. Et puis dans ces cohortes aussi, en général, on va de plus en plus vers une situation où on n'a plus simplement deux couches de données, les expositions et la santé, mais des couches intermédiaires sur, par exemple, le microbiote, qu'on quantifie, en tout cas le microbiote intestinal, dans le cas de la cohorte cépage que je vous ai présentée. Le méthylome a supposé qu'on réussisse à être dans le bon tissu, nous on le fait dans le placenta, ou le transcriptome. Alors, la mise en évidence de liens clairs entre l'environnement et la santé en prenant en compte l'ensemble de ces couches qui constituent réellement des données de haute dimension, parce qu'on n'est pas dans la situation où on arrive à avoir ces données sur des centaines de milliers de sujets, comme il le faudrait probablement, pose d'énormes défis. Et le cadre du travail d'une de mes doctorantes, on cherche à tirer profit de la couche intermédiaire, ici en l'occurrence la méthylation de l'ADN, pour mieux caractériser les liens entre cette couche de dimension intermédiaire qui est l'exposome et la santé, parce qu'on se rend compte qu'on a des taux de faux positifs assez importants dans le contexte de la corrélation, quand on cherche d'une façon agnostique à mettre en relation l'exposome avec la santé. Et en utilisant une approche qui cherche à utiliser cette couche intermédiaire pour faire de la réduction de données, on se rend compte qu'on peut diminuer un peu le taux de faux positifs. Ça, c'est l'approche agnostique et ça, c'est l'approche non agnostique. Et quand on est à 1, on a un taux de faux positif beaucoup plus proche de 5%, qui est le taux qu'on cherche à viser. Et de plus, les premiers éléments du travail de Solène Cadieu suggèrent que dans le cas où on a de la causalité inverse, c'est-à-dire où c'est le paramètre de santé qui influence les niveaux d'exposition. Et ça, c'est possible, notamment dans le cadre de substances lipophiles qui sont par exemple liées au surpoids, dont le niveau est lié au surpoids. Eh bien, là où les approches agnostiques ne permettent pas de faire de la distinction entre la situation où c'est A qui influence B ou B qui influence A, l'exposition ou la santé qui s'influence, eh bien, prendre en compte cette couche intermédiaire permet d'éliminer les situations où on a de la causalité inverse. Ce qui permet de s'éloigner de ce qu'on entend souvent, de cette expression « corrélation n'est pas causalité ». On se rapproche de la causalité avec un outil qui n'est pas statistique, mais bien sûr qui consiste à faire rentrer de l'information biologique. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a des défis absolument colossaux quand on cherche à quantifier l'impact de l'exposome sur la santé, que ce programme de la santé publique d'identification des dangers, les relations dose-réponse, la quantification du risque, l'identification des populations à risque et des mesures de gestion efficaces, il a été fait à l'heure actuelle que pour un nombre relativement limité de facteurs environnementaux, historiquement ceux qui avaient les plus forts effets au niveau individuel et la plus forte prévalence, comme le tabac, comme certaines expositions professionnelles, certains facteurs avec des effets individuels plus faibles, mais qu'on arrive facilement à quantifier, et que... On a encore du travail pour ce qui est des autres facteurs. Mais c'est un travail qui est absolument passionnant et qui progresse parce qu'on travaille plus seul maintenant qu'on a des cohortes qui nous permettent d'avoir des échantillons biologiques qui fournissent le support d'un dialogue très fructueux avec nos collègues biologistes, notamment nos collègues toxicologistes. Maintenant qu'on a aussi des outils pas trop coûteux pour caractériser beaucoup plus finement les expositions environnementales, notamment aux substances peu persistantes, avec les outils des biomarqueurs, et je pense que la révolution des biomarqueurs va avoir lieu si on se donne les moyens d'avoir la finesse temporelle nécessaire, si on se donne les moyens d'avoir des prélèvements répétés, avec un ensemble de modèles environnementaux, et ce qui va nous permettre, dans une certaine mesure, aussi de quitter l'approche uniquement en boîte noire, holistique, qui a été historiquement celle de l'épidémiologie. Et donc, on est réellement dans cette ère absolument passionnante où on commence à combiner réellement les outils des sciences de l'ingénieur, des sciences de l'environnement, des sciences de la vie et des sciences des données pour progresser sur l'élucidation des causes contrôlables des pathologies. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et je voudrais bien sûr remercier tous mes collègues qui sont impliqués dans les travaux que je vous ai présentés.